This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Et pour m'accompagner aujourd'hui, évidemment, pour m'accompagner aujourd'hui jusqu'à la fin de la Coupe du Monde d'ailleurs. J'espère, exactement. Si tout va bien.
Bah, j'espère, sinon ce ne sera pas bon signe pour moi.
Maxime Dupuis, comment ça va Maxime?
Ça va Martin.
Ça va, c'est tout? Oula, c'est un ouais, petit non, ça bah, va.
C'est,
ouais.
Si, c'est un ça va de veille de match, de veille d'entraînement d'une compétition. Il faut que ça monte en puissance, c'est comme les joueurs. Ça vient au fur et à mesure.
On va évidemment parler d'Australie-France, de France-Australie dans ce premier FC Stream Team quotidien ou quasi de la Coupe du Monde, puisqu'on bah, on aura une émission, on va dire, 6 jours sur 7 à peu près,
ouais,
globalement.
C'est ça.
Voilà.
Si vous voulez un repère, on ne fait pas d'émission à J+2 des matchs.
Ouais. Voilà, J+2 des matchs de l'équipe de France. Donc, des émissions 100% bleu, 100% équipe de France. Et donc, on va mettre tout de suite les pieds dans le plat. On va parler évidemment de France-Australie, de l'équipe probable. Et on va délimiter 3 sujets. On va démarrer évidemment avec la charnière, Maxime, puisque Raphaël Varane ne sera pas là. Que l'équipe de France va démarrer sa compétition avec une charnière Dayo Upamecano, Ibrahima Konaté. Si on nous avait dit ça, je pense qu'on ne l'aurait pas cru. Donc voilà, on va se poser toutes les questions que suggère cette association expérimentale dans le premier sujet, Maxime.
Ça me fait penser à un sujet qu'on pourrait faire sur ces joueurs qu'on ne voyait pas venir une semaine avant la Coupe du Monde ou avant l'Euro. Et là, pour le coup, alors peut-être un des deux, mais au moins la charnière, ce n'était pas prévu.
Non.
Le deuxième sujet, c'est un joueur qu'on voit depuis longtemps, mais par intermittence. Et a priori, mardi soir, face à l'Australie, comme il y a 4 ans, il aura sa chance. C'est Ousmane Dembélé. Se pose la question, Martin, de savoir si c'est une bonne idée, parce qu'au-delà du joueur Dembélé et de ses qualités qui sont bien évidentes, il y a ce que ça dit de l'équilibre de l'équipe de France.
Et on terminera avec les entrées en compétition des Bleus de Didier Deschamps. Généralement, ça se passe très bien. Parfois, ça se passe moyennement bien, mais généralement, ça gagne. Voilà, on reviendra sur toutes les expériences de Didier Deschamps, Coupe du Monde, de la Coupe du Monde 2014 à l'Euro 2021. T'es prêt, Maxime?
Je suis parti.
T'es chaud?
Ah, je suis chaud.
Ouais, Maxime, il est chaud. Il est chaud comme une baraque à frites, je vous le dis. Donc, on va démarrer avec ces informations qui nous viennent de l'équipe. La compo probable de l'équipe de France, si on se fie au dernier entraînement des Bleus à Doha, on aurait donc un 11. Je vais vous le faire en entier, ce sera beaucoup plus simple. Dans les buts, Hugo Lloris. Ensuite, une défense à 4 de droite à gauche. Pavard, Konaté, Upamecano, Lucas Hernandez. Au milieu, Rabiot, Tchouaméni. Et devant, 4 hommes. À droite, Ousmane Dembélé. Au centre, en soutien de l'attaquant de pointe, Antoine Griezmann. À gauche, Kylian Mbappé. Et devant, Olivier Giroud.
Alors d'ores et déjà, la première chose avant de rentrer sur les cas individuels, c'est qu'on est sur un 4-2-3-1 qui est la copie conforme du 4-2-3-1 de la Coupe du Monde 2018. Pas l'Australie, parce que l'équipe de France avait joué en 4-3-3, mais à partir de là, à partir de ce match-là, donc dès le Pérou et jusqu'à la finale face à la Croatie, elle avait joué en 4-2-3-1 à une petite différence près. C'est que le 4-2-3-1 qu'on aura demain face à l'Australie est ultra offensif, on va dire dans le choix des hommes, je veux dire dans les critères de Didier Deschamps, c'est ça que je veux dire. Et surtout, la différence par rapport à 2018, c'est qu'en défense centrale, il n'y aura pas Raphaël Varane, ni évidemment Samuel Umtiti, mais une charnière qu'on n'avait pas vu venir et qui est vraiment toute neuve en équipe de France, Upamecano, Konaté.
On a une charnière, l'équipe de France va débuter la compétition avec une charnière à 9 sélections cumulées. Alors Maxime, qui est une bible de l'équipe de France, à mon avis, on n'a jamais démarré une compétition avec deux hommes aussi peu expérimentés. 7 sélections pour Upamecano, 2 petites sélections pour Konaté, c'était au mois de juin dernier. Défense expérimentale, défense inédite en équipe de France, car les deux hommes ont joué ensemble. C'était à Salzbourg pendant 4 saisons. Ils se sont côtoyés du côté de l'Autriche. Malgré tout, on est quand même sur deux profils très jeunes, très verts. Deux profils aussi qui n'ont pas encore beaucoup brillé en équipe de France. Alors Konaté, il n'y a eu que 2 sélections. C'était très moyen, mais c'était au mois de juin. Il a moins d'excuses qu'un Upamecano qui a 7 sélections, qui lui s'est franchement planté pour son début en équipe de France. Et Upamecano, ça ressemble à un pari énorme de Didier Deschamps. Et voilà, moi, c'est un pari que j'ai du mal à comprendre parce qu'au niveau des défenseurs centrales, il y a le choix en équipe de France. Koundé, qui a déjà fait un tournoi à l'Euro et qui a en plus, depuis un an, acquis des galons titulaires. Alors certes, dans une défense à 3, malgré tout. Et William Saliba, qui marche sur l'eau en Angleterre, qui est peut-être le meilleur défenseur central de Première Ligue. Mais Didier Deschamps lui préfère un Upamecano qui certes a l'habitude, plus l'habitude de jouer à gauche, mais qui au niveau des émotions, Maxime, c'est très compliqué pour lui en équipe de France.
Ouais, moi j'ai rarement vu un joueur aussi écrasé par le fameux poids du maillot, et notamment la dernière fois qu'on l'a vu, où on sentait que chaque ballon était un supplice, qu'il y avait des soucis de gestion des émotions. Et c'est vrai que ça peut arriver. Didier Deschamps avait parlé très vite avec lui de cette histoire-là, et moi je trouve que ça se voyait un peu moins sur le terrain. En revanche, sur le terrain la dernière fois c'était terrible, et là demain c'est la Coupe du Monde, c'est-à-dire que faut pas qu'il y pense, mais il y a à peu près 12 millions de Français ou 13 millions de Français qui vont le regarder. Voilà, moi je pense que Didier Deschamps, tout simplement, il s'est dit: Raphaël Varane, le risque n'est pas à prendre, il est trop juste, on en avait parlé d'ailleurs vendredi.
Donc oui, il s'est dit, solution.
Alors comment je compense, voilà. Tu l'as dit, alors de mémoire, je réfléchissais pendant que tu parlais, non, une charnière aussi peu expérimentée, non, il n'y a pas eu, parce que pour une raison simple, c'est-à-dire qu'une charnière déjà, c'est quasiment le premier truc qu'on installe dans une équipe nationale ou autre. Et
c'est quelque chose qui se construit.
Qui se construit, et il arrive en revanche qu'il y ait des soucis. Une blessure, Varane avant l'Euro 2016, on se retrouve, si ma mémoire est bonne, avec Rami et Koscielny, et puis on a Umtiti en quart, mais Umtiti c'est sa première sélection en quart, il arrive là presque, bah oui, par accident, parce que l'équipe de France là n'a plus le choix, mais normalement c'est un truc qui se construit. Là Didier Deschamps, il se retrouve avec une charnière qu'il n'a pas pu construire parce que Kimpembe n'est pas là, parce que Varane n'est pas là et parce que Lucas Hernandez est là pour jouer à gauche dans une défense à 4. Conclusion, je pense que dans la tête de Deschamps, c'est de se dire: écoute, je vais compenser l'inexpérience des deux par leur complémentarité, puisque ce sont des joueurs qui ont joué ensemble à Leipzig. Je suis comme toi, j'aurais beaucoup aimé voir William Saliba, mais j'ai l'impression de revoir Saliba avec Arteta à Arsenal au début. J'exagère, mais peut-être qu'il s'est dit, Didier Deschamps: le problème, c'est que si je mets Saliba, il a très peu d'expérience aussi. Et en plus, il va se retrouver avec un joueur à gauche qui ne le connaît pas, ou très peu. Donc il s'est dit, peut-être, je vais mettre ces deux-là, au moins ils se connaissent. Mais j'aimerais bien savoir, ça c'est un truc dont peut-être que le joueur en parlerait, mais comment on travaille sur les émotions d'un joueur? Parce que là, Upamecano, les jambes, ça va. Enfin, parlais avec un journaliste allemand il n'y a pas longtemps.
Il n'y a aucun problème.
Ah oui, les journalistes allemands, justement, c'est le contraire. Je disais: mais pourquoi vous dites que ça ne va pas en équipe de France? Et moi, j'ai envie de leur dire: mais comment ça se passe? Comment ça se fait que ça se passe aussi bien au Bayern? Alors que le Bayern, c'est quand même quelque chose. Donc voilà, je pense qu'il a joué sur la complémentarité des deux avant l'expérience, parce qu'il y a une part de risque. C'était peut-être, aux yeux de Didier Deschamps, le moins risqué, en fait.
En fait, cette liste comporte 9 joueurs qui auraient pu jouer défenseurs centraux. Moi, j'en voyais au moins 7 devant Upamecano, c'est-à-dire à part Axel Di Sassi, qui effectivement est arrivé un peu à la dernière minute et qui n'a aucune expérience en équipe de France. Donc, ça me paraissait un peu cavalier de le mettre titulaire pour le premier match des Bleus. Mais hormis lui, voilà, moi, Upamecano, c'est celui qui m'a le moins convaincu en équipe de France. Il y a un Pavard qui peut rebasculer dans l'axe, il y a Hernandez qui peut basculer en axial gauche. Voilà, on ne peut pas dire qu'en tout cas Deschamps n'avait pas de solution sous la main. Des défenseurs centraux, c'est ce qu'il y a le plus dans cette liste-là. Il y a quasiment un tiers, il y a plus d'un tiers de la liste qui est composée de défenseurs centraux. Choisir Dayo ou Upamecano, Deschamps il prend un vrai risque, parce que s'il se trouve, comme il s'est la plupart du temps troué en équipe de France, voilà, on pourra reprocher à Deschamps. On ne pourra pas dire qu'il était pas au courant, quoi. J'ai pris ses moyennes aux notes Eurosport, donc il a 7 sélections. Je crois que ça se joue aux alentours de 4. Ouais, c'est très, très, très faible pour une moyenne. Donc, moi, j'ai vraiment du mal à saisir cette confiance envers Upamecano. Mais voilà, il l'a souvent rappelé. On sent qu'en tout cas, il croit énormément en lui, Didier Deschamps. Parce que même quand c'était compliqué pour lui, il l'a rappelé. Alors, il a raté l'Euro quand même, mais malgré tout, il l'a quand même souvent rappelé. Ça veut dire qu'il croit en lui.
Ouais, et il l'a même appelé dans les... Alors, évidemment, s'il est là, dans les 25. C'est-à-dire que nous, quand on faisait nos listes, et je pense comme 99% des journalistes de l'Hexagone, au petit jeu des pronostics, Upamecano n'était pas dedans. Voilà, parce que ce qu'il avait montré, c'était trop juste, parce qu'il y avait d'autres défenseurs centraux. Et il va être titulaire. Mais après, encore une fois, je pense vraiment que... Alors, je suis pas dans la tête du sélectionneur, mais de se dire que... Il joue vraiment la complémentarité. Et au moins, peut-être que Konaté, il se dit que ça va être plus rassurant pour Upamecano et vice-versa. Parce que, encore une fois, Konaté n'a pas été formidable. Je l'ai trouvé beaucoup plus mature dans son expression globale la première fois qu'il est venu en équipe de France, c'est-à-dire en juin. Mais pareil, il y a une inconnue. Après, je pense aussi, pour le coup de Lucas Hernandez et Théo Hernandez, je pense que Didier Deschamps se dit que mettre les deux Hernandez, il y a une part de risque. On l'avait vu dans une défense à 5.
Oui, mais là, il met ses deux axiales gauche, il les aligne en même temps. Donc c'est pareil, il y a une part de risque là aussi.
Oui, mais parce que... il te restera un, on peut avoir de chance pour que les deux se blessent. Et puis tu bricoleras. En fait, Didier Deschamps, là, je pense qu'il fait un mécano, c'est-à-dire qu'à gauche.
C'est Monsieur Bricolage. Voilà. Là, c'est Monsieur Bricolage.
S'il se met à gauche avec Théo Hernandez, là maintenant, de toute façon, ça, pour le coup, je ne comprends pas bien. Encore Klos, à la rigueur, je comprends à droite, mais pour Théo Hernandez à gauche, je ne comprends pas. Je pense qu'il pourrait jouer arrière-gauche. Mais il doit se dire qu'il a un profil trop offensif et que ça va trop déséquilibrer ou mettre trop en danger l'équipe de France s'il y a juste son frère derrière. Je pense qu'il y a de ça aussi. Son frère qui peut attaquer, mais qui a un profil plus défensif. Donc je pense que là, c'est une manière de se rassurer. Mais c'est vrai que j'aimerais être une petite souris et voir ce qu'il a fait à l'entraînement, pour le coup.
Ouais, moi aussi. En tout cas, c'est un pari vraiment risqué. C'est peut-être même un des paris les plus risqués de Didier Deschamps en Coupe du Monde, parce que moi, j'ai pas le souvenir de lui d'avoir pris de lancer une charnière entière. Quand même.
Là, mais l'autre pari qui était très risqué.
C'était Umtiti.
C'est Umtiti, voilà.
Mais Umtiti, finalement, il était confronté à une cascade de forfaits.
Oui, voilà.
Tu me diras, là aussi.
Là, il a pas le choix.
Et si, là, il y a des choix.
Non, il n'avait pas le choix.
Ah
pour
ouais. Umtiti, il n'avait pas des choix. Là, il y a des choix. Mais encore une fois, moi, c'est...
Je reste Didier Deschamps.
sur cette impression de Didier Deschamps à l'Euro qui bricolait. Et là, j'ai encore l'impression qu'il nous fait un remake de Monsieur Bricolage. Mais bon. Allez, Maxime, on va passer au deuxième sujet de cette émission. On parlait bricolage dans la première partie. On peut reparler bricolage dans la deuxième partie, puisque Didier Deschamps risque de lancer Ousmane Dembélé et une attaque à quatre têtes hyper offensive. Mais qu'on n'a pas vu depuis l'Euro, ça c'est une certitude, puis qu'on n'a pas dû voir quand même depuis un bon paquet de temps en équipe de France. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire de titulariser le Barcelonais face à l'Australie?
Déjà, je pense qu'en grande compétition, la dernière fois qu'on a eu une équipe aussi offensive, c'était peut-être finalement l'Australie 2018. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quatre attaquants, mais on a Mbappé, Griezmann, Dembélé, et avec milieu de terrain, notamment avec Tolisso, voilà, qui peuvent être des joueurs un peu plus, on va dire, tournés vers l'offensif. Voilà. Ce que ça m'inspire, c'est que là, pareil, Didier Deschamps se raccroche un peu à 2018, se raccroche à un système que l'équipe de France connaît en 4-2-3-1, mais qui, pour moi, n'ira pas au bout de la compétition. Voilà. Alors, évidemment, chaque compétition se ressemble, mais hormis que Mbappé et Dembélé soient mis à bosser défensivement exceptionnellement, mais souvenez-vous du premier match face à l'Australie en 2018.
J'ai un doute.
Les deux qui avaient pris très très cher avec Deschamps dans la causerie du lendemain, c'était ces deux-là parce qu'ils ne couraient pas assez, ça ne défendait pas assez. C'est très bien quand vous avez le ballon. D'ailleurs, Didier Deschamps en a reparlé ce matin. C'est marrant parce que j'ai dit, il ne fait pas ce qu'il dit, Didier Deschamps, dans le sens où son système le plus rationnel, il dit toujours c'est le 4-4-2, mais c'est pas un 4-4-2 avec Coman sur les côtés et Dembélé. C'est un 4-4-2 qui est un peu plus solidifié. Là, il se retrouve avec un système en 4-2-3-1 avec deux ailiers, on peut dire évidemment Mbappé plus qu'un ailier, un meneur qui défend, qui peut défendre, et Giroud qui fera le boulot. Mais c'est quand même très tourné vers l'avant et ça va à l'encontre de ce qu'il dit toujours. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas le ballon, pour courir derrière le ballon, ce sera plus compliqué. Après, pour ce qui est du joueur, puisque c'est lui, ça me fait plaisir parce que c'est un joueur qui n'a pas de peau, qui se blesse pendant l'Euro, qui est plutôt un bon camarade, qui est plutôt un très bon footballeur.
Oui, on ne remet pas en cause ses qualités.
C'est plus, faudra voir demain. De toute façon, ce que dit Deschamps aussi, il a raison, le football, c'est un rapport de force. Tant que l'équipe de France aura le ballon, si elle arrive à mettre le pied dessus, ça pose pas de gros problèmes. C'est au moment où elle va le perdre que ça peut être plus problématique.
Moi, j'ai peur qu'elle se mette quand même en danger sur ses côtés. Pour quatre raisons. Pavard, Lucas Hernandez, Dembélé, Mbappé. Pourquoi ? Déjà derrière, on part avec des latéraux qui n'en sont plus en club. Lucas Hernandez rejoue quand même à gauche avec le Bayern Munich. Bon, il maîtrise plus ou moins ces postes-là. Ils ont été champions du monde à ces postes-là. Mais en équipe de France, bah, il s'avère que ces deux-là étaient devenus des défenseurs centraux. Donc, il peut y avoir une perte de repères. Devant eux, pour les protéger, on a deux hommes, Dembélé et Mbappé, qui n'ont pas le volume de jeu ou la discipline défensive d'autres qui auraient pu jouer à cette place-là. Bah, on pense à une époque à Moussa Sissoko ou aujourd'hui à Adrien Rabiot. Donc on va avoir des ailes très exposées. Il faut se souvenir qu'à l'Euro, ces ailes étaient déjà très exposées et c'est ce qui a coûté la perte de l'équipe de France. Et que là, on part dans une animation et dans un système très ambitieux face à des Australiens qui nous avaient posé des problèmes offensif aussi en 2018. Alors l'équipe d'Australie elle a énormément changé. Vous me direz, ce n'est que l'équipe d'Australie et je te rejoins Maxime. Je pense que jamais contre le Danemark, il démarrera avec Dembélé, Mbappé, Giroud et Griezmann. Mais malgré tout, on est quand même sur un système 1 qu'on maîtrise assez peu, 2 avec des joueurs qui ne jouent pas forcément au poste auquel ils sont habitués ces dernières années en équipe de France, 3 avec des joueurs inexpérimentés et 4 avec une équipe qui penche vraiment vraiment vers l'avant et ça ressemble pas à des champs. Bref, ça fait
4 points x 2.
Ouais, ça, voilà, ça, non, mais ça fait beaucoup d'interrogations qui, moi, me laissent sceptique au coup d'envoi de cette rencontre.
Alors, se pose la question de ce qu'il aurait pu faire autrement, parce que c'est pas une évidence. Alors, il y a le fameux 4-2-3-1 où vous mettez ce joueur de couloir à gauche, type Matuidi, qui aurait pu être Rabiot, mais si vous mettez Rabiot à gauche, vous obligez Mbappé. Ouais. À aller sur le côté droit, Mbappé n'en a pas hyper envie comme à la Coupe du Monde. Mmh. Il manque finalement un Moussa Sissoko à cette équipe de France, en gros. C'est-à-dire un mec qui va bloquer le couloir droit. On se souvient que Tolisso s'était perdu dans le couloir droit, c'était contre le Portugal, je crois, à l'Euro. Donc ce n'était pas la solution. Alors, il y a une autre solution qui vaut ce qu'elle vaut. Bah, en club, Guendouzi joue à cette position-là, en quelque sorte, dans un 3-2. Bah, non, mais
soyons sérieux, Max.
En club, Guendouzi joue beaucoup plus haut que ce qu'il devrait faire. C'est correct, voilà. Encore une fois, c'est des systèmes, si on veut défendre, où il faut un sacrifié, voilà. Bah, peut-être que Guendouzi, sur le côté droit, à un moment, on se dira, bah, c'est peut-être lui qui a cette tête-là. Mais c'est vrai que, en fait, c'est la conclusion de tout, c'est-à-dire que ça démarre de la défense, ça va vers l'attaque, c'est que Deschamps est obligé de bricoler. Alors, il n'a pas de peau, encore une fois, parce qu'il y a une nuée de blessés, mais même avec Benzema, ça aurait été comme ça. Et d'ailleurs, je pense que me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais dans cette situation actuelle, vaut mieux avoir un Giroud, je pense, pour le repli, parce que je ne sais pas ce que serait donné une ligne Mbappé, Benzema, Dembélé au moment du repli. Benzema fait le job, mais pas exactement avec la même amplitude qu'un Giroud.
Mais ce qui est sûr, c'est que là, face à l'Australie, on a un one shot. C'est-à-dire qu'on a une équipe pour ce match-là et qu'on ne construit pas pour le reste de la compétition. On en a parlé dans le premier sujet avec la charnière, qui a priori devrait bouger au deuxième match si Varane se remet. Mais même face au Danemark, je ne vois pas l'équipe de France démarrer dans un tel schéma avec de telles ambitions offensives. Donc, moi, je retrouve un peu ce que je disais tout à l'heure aussi, le Didier Deschamps de l'Euro qui fait en fonction des forces de l'adversaire et voilà, qui n'a pas une idée directrice. Or, ce qui a fait la force de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2018, c'était certes que le deuxième match, mais c'est qu'au deuxième match, voilà, elle avait trouvé son système, ses hommes, ça n'a pas bougé, force collective, automatisme, bim bam boum, on y va et ça gagne. Là, j'ai l'impression d'une équipe one shot. Voilà, alors après, je souhaite pour elle que ça fonctionne, mais à 24 heures du match, j'ai des doutes.
Mais en tout cas, pour en revenir à Ousmane Dembélé, juste d'un point de vue humain et sportif, c'est plutôt cool de le revoir. Il était sorti blessé face à la Hongrie. On a le droit de s'attacher aux hommes.
C'est cool de voir Colomoigny aussi. Tu vois, on ne l'a pas vu depuis qu'il a gagné la Coupe de France avec Nantes. Ça peut être sympa aussi.
Ça se trouve, il rentrera. Hein.
Non, mais...
Il est sur le banc. Non, mais voilà. Bon, on verra. De toute façon, encore une fois, c'est une question de rapport de force.
En plus, moi, pour Dembélé, alors, on le caricature un petit peu comme ça, mais moi je vois très bien un impact player. Moi je le vois très bien en sortie de banc. Je vois très bien un essai jambes quand les mecs en ont ras-le-bol, qui se sont tapés Mbappé, Giroud, Griezmann, et que là t'as Dembélé qui rentre. Moi je le vois là-dedans, je le vois dans ce registre-là.
Mais... L'autre immense perdant, mais à plus long, enfin pas à plus long terme, de plus loin, c'est Kingsley Coman aussi.
Oui.
Changement de système et tout, voilà, il était la solution potentiellement, même si moi j'y croyais pas.
Au moins lui il est là, contrairement à Klose.
Voilà, il aurait pu être celui qui postulait, voilà, choisi Dembélé. C'est que Deschamps aime beaucoup Dembélé, voilà, bah, à lui de, j'allais dire, non pas de nous faire mentir, mais de donner raison à Didier Deschamps face à l'Australie.
France-Australie, ce sera le premier match donc de cette équipe de France à la Coupe du Monde 2022, et on s'est replongé dans nos souvenirs pas si lointains des premiers matchs en compétition des Bleus de Didier Deschamps. C'est très simple. Brésil 2014, victoire convaincante, très convaincante, voire très très convaincante, mais bon, façon Honduras. Euro 2016, victoire à l'arrache, dernière seconde, souvenez-vous, la mine de paillettes face à la Roumanie. Coupe du Monde 2018, Australie au couteau, horrible, ça passe par la chatière, les Bleus ont énormément de chance, mais ça passe. Euro 2021, magnifique, victoire convaincante face à l'Allemagne. On se dit qu'ils vont aller au bout, qu'il ne peut pas en être autrement en Allemagne, en plus à Munich. Résultat, les premiers matchs ne disent rien du reste de la compétition, Maxime.
Exactement, et en plus l'Allemagne, c'est... Alors, à mes yeux, c'est la plus convaincante des quatre. Mais c'est celle qui fait dans un style complètement différent, parce que c'est une équipe qui attend, qui défend merveilleusement bien, et qui, à ce moment-là, nous fait penser qu'elle est d'une maturité folle et qu'elle va maîtriser tout ce qu'elle veut à sa main.
Comme quoi.
Bon, bah voilà, comme quoi, hein, ça ne dit rien. Non, mais au moins, on peut s'attacher à quelque chose, c'est que Didier Deschamps gagne ses premiers matchs. Voilà, ce qui n'était pas le cas de ses deux prédécesseurs d'ailleurs. Donc déjà au moins ça permet de clarifier l'air. Vous partez avec 3 points. Et évidemment c'est toujours important. Mais là particulièrement parce que moi c'est le match du Danemark qui me fait très 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 peur. Imaginez que demain soir l'équipe de France ait fait match nul contre l'Australie. Elle se retrouvera samedi face au Danemark qui lui a fait tout ce qu'elle voulait cette année. Alors vous me direz c'est pas les mêmes matchs, c'était pas la même équipe. C'est toujours la même chose, c'est qu'une équipe en face est en forme, c'est qu'une équipe en face se connaît bien, avec un collectif très huilé, ce qui est pour l'instant l'à peu près exact contraire de ce que les Bleus ont. Donc vraiment, je pense que là, c'est toujours important pour les matchs, mais je suis pas loin de penser que celui-là est le plus important des 5.
Et là, d'autant plus, je dirais qu'il y a un climat autour de cette équipe de France qui peut vite basculer. Il s'est passé beaucoup de choses sur et en dehors du terrain. On va parvenir sur aussi la FFF, etc. Mais en tout cas, avec les forfaits, c'est très lourd ce qu'il y a autour de l'équipe de France. Et je dirais que tout autre résultat, j'allais dire même qu'une victoire convaincante, plus qu'une victoire, qu'une victoire convaincante, alourdirait un petit peu plus encore ce climat-là. Alors évidemment, avant le début de la compétition, on ne peut pas tirer de conclusion. Les joueurs, ils sont voilà, dans leur bulle, etc. Tout se passe bien. Mais là, si en plus, on a un résultat qui sanctionne des manques, alors même que cette équipe de France, on voit mal où elle va avant le début de la Coupe du Monde, je pense que ça pourrait leur mettre la tête dans le seau et on pourrait se revivre un scénario qu'on aimerait bien oublier, qui s'est passé il y a 20 ans, par exemple. Mais voilà, tu as raison, un match charnière, un match important, d'autant qu'il y a une équipe comme... Pour l'équipe de France en Coupe du Monde en 2014 et en 2018, je ne pense pas qu'il y avait dans le groupe une équipe aussi compliquée que le Danemark 2022. Il y avait le Danemark 2018, il y avait la Suisse 2014, ouais, qui était assez chouette aussi, mais rien de comparable au Danemark 2022, qui est un outsider costaud au dernier carré. Donc voilà, il vaut mieux pas se riper. Sinon, je pense que ça peut mal tourner et vite mal tourner.
Ouais, c'était une Suisse qui n'était pas à son top encore, qui est devenue plus forte par la suite. C'était un Danemark qui n'était pas aussi fort et puis en plus, c'était un troisième match. Là, vraiment, c'est un Danemark qui est a priori au...
Qui est candidat au dernier carré pour moi.
Qui est candidat au dernier carré, qui fait partie des outsiders sérieux, ce que n'est pas l'Australie. Donc, raison de plus pour ne pas se rater. Et cette situation, avec tous ces blessés, il y avait eu un peu quand même avant la Roumanie en 2016 à l'Euro, avec beaucoup de blessés, mais j'ai l'impression que l'équipe de France... Alors, non, avec le recul, il faut quand même le rappeler, parce qu'on avait de très, 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 très gros doutes sur la défense quand même.
Oui,
alors,
oui.
Avec le recul, on rigole. Parce
qu'il n'y avait pas Varane déjà.
Il n'y avait pas Varane, mais il y avait Koscielny, et bon... Là, maintenant, quand on regarde la défense, on se dit, bon, bah, finalement, ça allait, mais je crois qu'à gauche, c'était ou Evra,
c'était
Clichy.
Evra, c'était Evra.
Et je crois que Clichy avait joué le premier match, ou après, il était sorti, je ne sais plus.
Evra, enfin, premier match, je crois.
Et à droite, c'était Sagna. Honnêtement, il y avait des doutes, et on était à se dire que ce qui faisait finalement la force de l'équipe de France n'en était plus vraiment une. Alors finalement, c'était bien passé. Donc voilà, il y avait un peu cette petite, ce petit doute autour de l'équipe, et c'était passé, comme tu as dit, par la Chatière pour le premier match, avec cette frappe incroyable du pied gauche de Dimitri Payet.
Après, les équipes se forment pendant les tournois.
Oui.
Aussi bien qu'on va faire tout le tournoi avec cette charnière Konaté ou Upamecano, que tout va très bien se passer, et qu'à la manière d'un Umtiti qui s'est fondu complètement dans le 11 et de manière fantastique à l'Euro jusqu'à Moscou, finalement, jusqu'au sacre mondial, peut-être qu'on aura des révélations. Mais ce qui est certain, c'est que voir des champions du monde avec un tel réservoir, avec de telles individualités, avec une pancarte qui était quand même très très grosse jusqu'ici, voir tout ça s'évaporer petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, voire mois après mois, pour arriver la veille du match avec une charnière qui n'a jamais joué ensemble et avec un Ousmane Dembélé qu'on ressort un petit peu du frigo. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui font que voilà, le climat est... On aurait pu connaître un climat un peu plus serein.
Ouais, et moi, si j'ai un doute par rapport à la dernière fois, par rapport à l'Allemagne, évidemment, c'est qu'il manque Kanté et Pogba déjà. Mais
c'est pas un détail. Hein.
Au-delà de ça, c'est le caractère. En fait, je sais pas si cette équipe a du caractère. Je sais que Griezmann a de la grinta, que Giroud a de la grinta, que Mbappé aime la gagne.
Que Lloris, c'est l'assurance touriste, a priori.
Voilà, mais je ne sais pas si cette équipe a du caractère face à l'adversité. Et l'adversaire, l'Australie, est peut-être bien pour ça, parce que c'est un adversaire qui peut être chiant, qui a changé par rapport à la dernière fois, mais qui reste une équipe assez rude à jouer et costaud dans les duels. Donc, au moins, ça permettra de savoir si une équipe qui a du caractère, si elle a du caractère, a priori, ça peut avancer.
Réponse demain vers 23h dans le FC Stream Team, le débrief, Maxime.
Exactement.
Donc on se donne rendez-vous dès demain après le match, on va dire une heure après le coup de sifflet final, si tout va bien, si tout s'est bien passé, même si tout s'est mal passé d'ailleurs.
Ouais, on sera là quand même.
Voilà, on parlera sans doute d'Upamecano et Konaté, on parlera sans doute d'Ousmane Dembélé, et je parlerai sans doute avec Maxime Dupuis, et ça c'est même allé à 99,99%.
Ouais, sinon c'est vraiment qu'il y a un gros problème. Donc si je suis pas là demain soir,
alors là, ouais,
c'est
on rigolera
pas. Quelque chose de grave.
Hein. Ouais, on rigolera pas. Merci Sébastien, derrière les manettes. Merci Quentin pour ce nouvel habillage.
Il est derrière ou devant les manettes? Devant les manettes même plutôt.
Et devant les non, derrière les manettes. Mais non, devant les manettes,
comme
c'est
devant
pas possible.
L'écran.
Non, pour moi, il est derrière
les manettes. Les manettes sont devant lui, il est pas dans le dos.
Bon, bref. Et merci Quentin pour ce nouvel habillage très Qatar 2022, on va dire.
Magnifique.
On se donne rendez-vous demain pour débriefer le premier match des Bleus à la Coupe du Monde 2022 face à l'Australie. Ciao.
Salut.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.